Bonjour à tous, on se retrouve, nouveau CQFR, CQFR historique, ou plutôt soirée historique pour les Français. Quatre Français draftés au premier tour, c'était encore du jamais vu. Deux Français aux deux premières places, 2 années de suite qu'on a un Français premier choix. Shai, cette draft, elle a surtout souri au tricolore, avec Zachary Risacher, donc pris en première position, Alex Sarr en deuxième position, Tidjane Salin en sixième position, sixième choix du côté des Hornets. Pour Risacher, c'était les Hawks, pour Sarr, c'est les Wizards, et Paco Mdadié qui a été drafté en 25e position par les Knicks.
Ouais, soirée historique, tu l'as dit. Encore une fois, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Les gens qui suivent la NBA depuis peu de temps ont pris l'habitude que des talents internationaux et même des Français soient draftés assez haut. Tous les ans, on a un Frank Ntilikina, un Killian Hayes, enfin ça arrive, un Bilal Coulibaly, Victor Wembanyama étant quand même une exception. Mais se dire qu'il y a quatre Français au premier tour, que les deux premiers choix, c'est des Français, c'est la première fois qu'il y a deux joueurs internationaux qui sont pris aux deux premières places déjà. Ça, c'est, je trouve que c'est déjà c'est pas banal. Et que ce soit deux Français, quelle que soit la suite, et on leur souhaite évidemment une superbe suite dans leur carrière, c'est voilà, c'est assez incroyable. C'était franchement émouvant parce que Risacher était très ému dans les bras de sa mère. Il y a eu le côté Madeleine un peu avec son père parce que voilà, on a vu jouer son père avec l'équipe de France et dans le championnat de France et en Europe. Hein. Il y a tout un truc qui fait que c'était quand même assez émouvant. Alex Sarr derrière, dont le nom nous parle un peu moins, même si on connaît aussi son frère. Tidjane Salin, belle montée. On le voyait un peu plus bas et là, Charlotte le prend en sixième position. Et on sait qu'il a un gros potentiel et que beaucoup de, notamment Steve Clifford, mais beaucoup de dirigeants le tenaient en haute estime au niveau de son potentiel. Clifford, apparemment, qui est maintenant dans le front office, a fait des pieds et des mains pour que Charlotte le drafte. Et Paco Mdadié, dont on n'était pas certain de la présence au premier tour, qui en plus va rester a priori. Enfin, son intention, c'est pas du tout d'être en draft and stash. T'as raison, c'est une soirée historique et ça, forcément, c'est un peu excitant dans le sens où on se dit, putain, on va avoir une équipe de France. Si tous les mecs qui viennent tous les ans, qui restent les anciens, enfin les joueurs actuels, plus ceux-là qui arrivent, on a de quoi être une nation encore plus incontournable. Dans le basket mondial, on est déjà une très belle nation, mais là, c'est forcément, tu vois, la draft reste une mesure étalon du talent et voir des Français comme ça, ça fait vraiment plaisir.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est clair. En plus, comme tu as dit, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. L'an prochain, Nolan Traoré, pour l'instant, il a annoncé deuxième choix de la draft. Alors, les mock drafts à 1 an, ça vaut ce que ça vaut. Autrement dit, pas grand-chose. Mais Nolan Traoré est présenté comme le plus gros prospect derrière Cooper Flagg pour l'instant. Donc, c'est vrai que ça ferait 3 années de suite avec un Français drafté très haut. Ça serait excitant. Il y a le second tour, il y aura peut-être encore des Français draftés. Ils sont trois en liste, si je dis pas de bêtises. Agença, Traoré et Diawara. C'est ça. Les trois Français susceptibles d'être draftés au second tour, même ce sera surtout le cas, je pense, pour Agença. Pour les deux autres, ça risque d'être plus compliqué, mais sait-on jamais. On peut revenir un peu sur les destinations. Il n'y a pas eu de surprise au final. Risacher, Sarr, ça fait un moment qu'ils sont annoncés 1 et 2, et on se retrouve exactement 1 et 2. Risacher aux Hawks, Sarr aux Wizards. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'il y a une situation que tu trouves favorable à une autre? Qu'est-ce que tu penses tout simplement de Risacher au sein des Hawks et de Sarr au sein des Wizards, même si pour le coup on a déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup, et notamment toi qui étais déjà en direct hier sur Twitch avec Benjamin.
Ouais, on s'était fait à l'idée pour Risacher à Atlanta. Hein. Je trouve quand même toujours curieux ce qu'il y a eu avec Sarr et Atlanta. C'est un peu parce que en soi, son profil pouvait correspondre peut-être plus aux besoins des Hawks, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de workout, enfin c'est pas non plus si habituel que ça. En théorie, t'es first pick. Enfin, si tu penses être first pick, peu importe la destination, quoi. Alors, même en termes de salaire, c'est quelque chose qui est difficile à refuser. Sinon, bon, pour les destinations, je pense que c'est dans tous les cas pour Risacher, c'est très bien parce que c'est pas une franchise qui m'a l'air partie pour du full tanking. Et si elle le fait, ce sera pas grave parce que je pense qu'il y a quand même des fondements, des fondations solides. Moi, je m'étais fait l'idée que ce serait lui le first pick et j'aime son profil, j'aime sa personnalité. Je pense qu'il va réussir. Et pour Sarr, c'est très bien aussi parce que Washington. Il y a un terrain d'expression, je pense, peut-être même plus qu'à Atlanta, si les choses restent en l'état. En tout cas, en l'état, avec Trae Young, Dejounte Murray, le fait que les mecs aient pas bougé encore, ça laisse peut-être un peu moins d'opportunités. Mais à Washington, je pense qu'il y a la place de devenir le très gros joueur défensif qui peut être assez rapidement. Donc, bah, forcément, les Wizards, c'est pas l'équipe qui nous emballe le plus de base hein, ces dernières années, on va pas se mentir. Mais là, je pense que c'est plutôt une bonne destination finalement pour lui aussi. Et il aura du temps de jeu et des opportunités. Pour ce qui est de Tidjane Salin, Charlotte aussi. Charlotte, c'est un peu. Il y a un côté Suicide Squad de l'équipe avec certains des joueurs. Mais ils sont en train de changer, ils sont en train d'essayer de passer un autre cap entre le changement de coach et puis renouvellement peut-être un peu de l'effectif aussi. Donc il peut aussi avoir des opportunités, ils vont peut-être pas chercher non plus à gagner tout de suite, donc il y a de quoi développer un jeune comme Salin. Pour Dadier, c'est un peu plus compliqué, on sait pas, les Knicks c'est une équipe qui vise quand même gros, et on en parlera tout à l'heure, il y a encore eu des moves du côté des Knicks autour de la draft. Donc dans les prévisions qu'on avait faites, dans l'article qui était sorti la veille de la draft, je crois, qu'on avait fait, sur les scénarios possibles que Benjamin avait fait, c'était déjà bien que Dadier soit. Enfin, premier tour, c'était déjà bien. Et moi, je l'envisageais comme un joueur capable de. Enfin, dont les opportunités se limiteraient peut-être à des allers-retours en G-League, peut-être dans une équipe compétitive, hein, comme New York. Mais je suis content que ce soit New York et qui reste théoriquement NBA s'il n'y a pas de draft and stash. Déjà pour l'expérience, ça peut être bien, comme ce qu'a eu un Ousmane Dieng, par exemple, dont on attend de voir ce qu'il va donner après. Mais globalement, je me dis pas pour l'instant que ces quatre-là sont dans un bourbier. Ça peut changer hein, avec le temps, mais c'est des situations intéressantes.
Ouais, je pense que tu as parlé de terrain d'expression. Je pense que c'était le plus grand facteur de motivation, peut-être pour Alexandre Sarr. Au Wizards, il va arriver à un endroit où tout est à reconstruire. Donc, il peut décider de son poste, il peut décider de son rôle. S'il était aux Hawks, je pense que moi, je trouve que c'était un fit parfait, les Hawks, sur ce qu'avaient besoin les Hawks, mais effectivement, peut-être pas ce qu'avait besoin Sarr, même si je pense que quelque part, il aurait pu s'illustrer en jouant avec. En fait, jouer avec un mec comme Trae Young. Mais effectivement, il y a cette incertitude. Est-ce que les Hawks ont gardé Trae Young? C'était, je pense, l'assurance de marquer 4 alley-oops ou 4 dunks faciles par match. Là, mais c'est vrai qu'à Washington, bah, s'il décide que lui, il veut être un 4 et pas un 5, bah, il va pouvoir arriver et dire bah, non, non, je suis un 4. S'il décide qu'il veut avoir plus de ticket shoot, il aura plus de ticket shoot. Il y aura quelque chose, voilà, il y aura une plus grande liberté d'expression, je pense. Et il y a un petit côté. En fait, il y a deux. En fait, il y a que deux personnes, je pense, pour l'instant, aux Wizards, que deux joueurs qui font partie du projet, c'est lui et Bilal Koulibaly, donc les deux Français. Et c'est deux défenseurs. Et c'est vrai que là, les Wizards, je pense, n'ont toujours pas leur franchise player.
Non.
Je pense qu'ils en sont conscients. Mais par contre, ils ont deux joueurs avec une très forte polyvalence défensive qui seront peut-être des compléments parfaits de ce futur franchise player. Qui sera peut-être Cooper Flagg. Hein. Je pense que les Wizards seront mauvais. Ils ont déjà transféré Denis Avdija pendant la draft. Ils ont échangé donc. D'ailleurs, ils ont pris un Carrington. Pardon. Toi, tu connais mieux. Il joue quel poste,
C'est mon
Carrington?
poulain, c'est un meneur arrière, c'est un combo garde.
Ok. Donc, du coup, ouais, ils pourront tester Carrington, Koulibaly. Enfin, bon, ils vont faire jouer plein de jeunes. Lui, je ne le connais pas du tout.
Très content, c'était mon. C'est un peu mon style, enfin, c'est le joueur qui était hors de la loterie souvent que je mettais moi dedans. Pour le coup, autant j'ai pas vu énormément de matchs cette année, mais j'avais regardé Pittsburgh et j'avais regardé son profil et j'aime beaucoup beaucoup ce joueur. Donc s'il a du temps de jeu à Washington, je serais très très content.
Ouais, parce que du coup, c'est le 14e choix des Blazers qui a été envoyé à Washington. Je pense que Washington va se séparer de Kyle Kuzma. Jordan Poole, je ne sais pas encore, ça c'est pas sûr, mais Kyle Kuzma, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils s'en séparent, même s'ils n'ont pas une pression de temps pour le transférer. On sait que les Kings sont intéressés. Et donc voilà, Washington va encore perdre des matchs, aller chercher encore sans doute un top pick ou un choix très haut placé la saison prochaine, au moins, voire encore celle d'après. Et Sarr va pouvoir s'exprimer. Pour Izaché, il faudra voir ce que ça donne. Effectivement, il y a la pression d'être le premier choix, quoi. Ça va être. Il faut que, premier choix, les gens comprennent que tu peux avoir un role player de luxe en fait en premier choix.
Eh bien sûr.
Ce sera peut-être plus que ça, hein, Risaché, dans le temps, certainement, mais là, pour l'instant, un mec qui coupe, qui joue intelligemment, qui fait les bons choix, qui, j'espère, aura une bonne adresse à 3 points, ça sera très important pour lui, qui va former une paire défensive très intéressante avec Jalen Johnson. Ils ont encore DeAndre Hunter, ils ont plusieurs joueurs du même, entre guillemets, du même profil. C'est intéressant, les Hawks. Moi, je trouve ça
Je pense
intéressant
que
aussi. Yes.
Hunter, je pense que Hunter, enfin, j'ai dû, le Hunter, à mon avis, il sera vite
Il y en
candidat
a un
à un
qui sera
trade.
transféré.
Il y aura des moves, hein, il y aura des moves avant le début de la saison parce que
C'est le Old
je ne sais pas exactement lesquels. Est-ce que ce sera juste des petits moves d'ajustement pour faire de la place à Risacher, par exemple, pour que Jalen Johnson continue son éclosion, mais il y aura des moves à mon avis. Je sais pas si ce sera ça ou Trae Young et Dijon Temeray, enfin, il va se passer des choses, je pense.
Il va se passer des choses à
côté
Atlanta.
Côté d'Atlanta. Mais je repense à Rizaché, je repense au moment de la draft. On a quand même entendu Adam Silver prononcer Bourg-en-Bresse. Ça, c'est quand même. C'est quand même assez incroyable. Et c'est, ouais. Ce qui est bien, c'est que je me demandais comment il prononcerait son nom de famille. Tu vois, parce que ça peut être tentant pour un Américain s'ils sont pas renseignés de faire un Rizaker ou un truc comme ça. Adam Silver a très bien fait Rizaché. Voilà.
Ouais, je pense qu'il a quand même quelqu'un qui lui dit juste avant, effectivement. Et pour Salin, je suis pas sûr que les Hornets vont tanker, très sincèrement. Ils ont bien fini la saison. Généralement, quand ils ont la Melo Ball, ils sont jamais nuls. Je me souviens même
de l'année
où avant qu'ils se blessent, ils sont quatrième au moment où ils se blessent. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, tu vois, on peut l'imaginer dans un moule à la PJ Washington, tu sais, mec qui défend sur plusieurs postes, qui est long et qui met des tirs. Et ben voilà, ils ont transféré PJ Washington il y a quelques mois, il y a 5 mois. Là, ils prennent Tijan Salin. Je pense que ça colle plutôt bien avec ce qui est déjà en place, avec Mark Williams. C'est Mark Williams.
C'est Mark Williams, ouais.
Ouais, avec Brandon Miller, avec la Melo Ball, ça colle. Il est pris plus haut qu'annoncé, mais je pense que ça peut coller.
Mais c'est vrai que l'équipe est sympa. L'équipe est sympa, mais t'as tout dit sur la première phrase, c'est-à-dire quand il y a la Melo Ball. Et le problème, c'est qu'il y a quand même des soucis pour être apte. Hein. C'est-à-dire, quand il est là, il est effectivement très fort. Il a été All-Star, mais il manque beaucoup de matchs à cause de les chevilles en général. Hein, c'est souvent les chevilles. Ouais. S'il est là, je suis d'accord, ils ont quand même une belle petite équipe. Brandon Miller a été bien meilleur que ce à quoi je m'attendais, par exemple. Les recrues qu'ils ont faites pendant en cours de saison étaient plutôt intéressantes aussi. Là, tu rajoutes Salin, ça a changé au coaching staff. C'est une équipe que je peux aussi bien voir être une bonne petite surprise, accrocher le play-in ou être pas trop loin des places qualificatives directes. Parce que Miles Bridges aussi, quoi qu'il ait pu faire, il est toujours là, c'est un très bon joueur. Faut voir s'il reste, t'as raison.
Ouais. Parce que du coup, par contre, s'il reste, Salin sortira sans doute du banc.
Ouais. Il y a toujours Grant Williams, tous les joueurs qui sont arrivés des trades, les Treyman, Micic et compagnie. C'est une équipe pas mal qui peut se développer, il leur manque pas tant de choses que ça pour être vraiment intéressant. Faudra voir au niveau du. Ma mémoire me fait défaut, mais ils ont remplacé Clifford déjà. On sait qui le remplace.
Par Charles Lee, je crois, qui est l'assistant qui était assistant aux Celtics.
Ah ouais, il avait été nommé, mais tu vois, j'étais passé à côté. Ouais, Charles Lee, c'est ça. Ouais,
lui,
ça.
Officiellement nommé hier, mais qu'on l'a même pas fait.
Ça fait plusieurs années que lui, il est évoqué dans tous les décennies. Hein, une position qui se libère, il est sur le coup.
Ouais. Ouais, du coup, bon, à voir ce que ça va donner pour Paco Mbadié, je pense que les Knicks de toute façon avaient besoin, ils ont trade down d'un pic de passer de 24 à 26, sachant qu'ils ont gardé le 25.
Ouais.
L'idée c'est que leur équipe va leur coûter très très cher. On parlera après de la prolongation d'Anunobi, mais l'équipe des Knicks coûte très très cher et du coup les pics de fin de premier tour deviennent très importants parce que c'est comme ça que tu signes un mec qui a un contrat un peu plus faible, quoi. Donc Mbadié, voilà, ils ont pris un meneur remplaçant, enfin un meneur qui sera un guard quoi, qui sera remplaçant de Jalen Brunson. On verra s'il a du temps de jeu.
Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais c'est pas du tout contre son talent. Il est très talentueux. Thibodeau, il a quand même ses têtes. Il va garder certains des joueurs qui étaient là, les McBride et tout. C'est pas exactement le même registre, mais il y a quand même de ça. Par contre, c'est pas impossible qu'il lui fasse goûter un peu au terrain par rapport à ce qu'il va faire en Summer League et tout. Mais je pense pas, j'ai l'impression qu'il va quand même faire des allers-retours en G-League, ce qui n'est pas grave du tout. Il y a des joueurs qui sont passés par là. J'ai pas l'impression, après, vu les ambitions d'Enix, ça me surprendrait beaucoup. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est pas grave.
Ouais, moi non plus. Par contre, l'avantage avec un coach comme Thibodeau, c'est que si tu. En fait, tu peux te retrouver sur le banc, effectivement. Enfin, de toute façon, on voit bien comment certains joueurs sont juste mis au placard pendant longtemps, mais généralement, c'est des vétérans. Mais si tu joues dur, en fait, t'as une chance d'aller gratter tes minutes dans la rotation. Mais je pense effectivement, comme toi, qu'il y a un peu trop de monde devant et qu'on est, comment dire, ils ont trop d'ambition. Après, voilà, il a 21 ans, il jouait déjà en pro.
Ouais, c'est pas grave, c'est quand même...
Physiquement, il a ce qu'il faut.
Il va, dans tous les cas, il va apprendre. C'est-à-dire que t'arrives dans une institution, s'il arrive à passer le cut... Il va arriver dans une institution que, enfin, tu apprends beaucoup, une équipe qui est ambitieuse, qui a fait des demi-finales de conférence. Voilà, c'est il a pas 21, hein, c'est un des plus jeunes joueurs de la draft d'Adier, donc il a encore le temps d'apprendre. Hein, il a 19, je crois.
Pardon, mais qu'est-ce que je raconte, ouais. Il a pas 21 ans, pardon.
Ouais, voilà. Ouais. Non, mais
il a 18 ans, il a même 18 ans, il a pas encore eu ses.
Ouais, et il a pas beaucoup joué. Il a pas beaucoup joué en pro non plus parce que là il a fait sa saison en Allemagne, mais il était bloqué au Paris Basket. Il y avait un imbroglio avec le Paris Basket et il commence seulement vraiment à jouer beaucoup. Donc
oui, mais bah, merci Chai, je raconte n'importe quoi. Effectivement, il a 18 ans et il va avoir ses 19 ans. C'est un prospect.
Donc qui va apprendre.
Là où je me trompe pas, c'est qu'il a vraiment les qualités athlétiques, enfin les attributs physiques pour jouer en NBA. Donc à voir ce que ça donne, à voir s'il arrive dès la première année à se faire une place dans la rotation. On peut peut-être revenir du coup un peu sur le tableau de la draft.
Ouais.
Donc on a dit Risa chez Sarr. Derrière Shepard en 3, pas vraiment une surprise.
C'était un peu attendu aux Rockets. Ouais, enfin, c'est pas ce que j'avais mis dans la mock, mais bon, j'étais parti sur un autre scénario. Mais Shepard peut, ouais, Houston, ça peut quand même, il peut apporter quelque chose quand même. Ouais.
Je pense qu'il y avait vraiment que deux scénarios à Houston. C'était Klingan, c'était s'il y avait un trade, et sinon c'était Shepard dans le sens où, bah voilà, c'est le meneur shooter qui est derrière Van Vliet et qui aura tout de suite un rôle presque de sixième homme d'ailleurs finalement à Houston.
Oui, bah je pense que ça va être comme ça. Après, Houston va encore à mon avis pas mal bouger, donc faut surveiller et se méfier un peu. C'est difficile d'imaginer tout de suite les rotations alors que je pense que ça va encore bouger et qu'il y a encore le deuxième tour, il peut se passer des choses. Mais en termes de talent, enfin de talent prévisionnel, Shepard, il a quand même quelque chose au niveau offensif. C'est pas un scandale de le voir en troisième position.
Après quatrième choix, moi j'aime beaucoup ce qu'on
fait. Ah, c'est ce que tu voulais, c'est ce que t'avais dit.
Ouais, Stéphane, alors je pensais qu'il prendrait Buzelis aussi, mais quelque part Castle, c'est vraiment le joueur qu'il leur faut. Je pense que ça sera pas leur meneur du futur, je pense qu'à terme ça sera un jour leur deuxième playmaker et pas leur premier playmaker, mais il y a vraiment quelque chose, ça fait partie des gars qui dans cette promotion peut devenir un All-Star un jour, mais à une condition, c'est qu'il développe le tir, ce qui est l'un de ses points faibles pour l'instant. Mais voilà, t'as un meneur arrière d'1m98 qui peut défendre sur les postes 1 à 3 voire 1 à 4 sur certaines configurations, contre certaines équipes, en gros les équipes qui jouent petit. Deuxième playmaker, qualité athlétique, mec qui a déjà eu qui s'est déjà fondu dans un collectif avec UConn. Moi j'aime beaucoup.
Oui, bah tu l'avais, de toute façon tu l'avais pressenti. C'est effectivement, je pense, un bon choix. Et puis en écoutant à droite à gauche les différentes previews et tout, c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui était attendu, ça ressemblait à une bonne idée et ça je pense que ça ressemble encore à une bonne idée. Moi, je le voyais plus bas, mais je sais pas. Je pensais qu'il allait peut-être dégringoler un peu, mais c'est une très bonne chose pour les Spurs. Il m'a l'air de bien aussi entrer dans le moule de ce qu'ils attendent. Un joueur déjà très bon défensivement avec des bons fondamentaux et je trouve que c'est un bon pic. De toute façon, les pics des Spurs c'était une intrigue et celui-là, autant celui-là, il est quand même, on va dire logique parce que notamment toi, d'autres personnes et toi l'avaient plus ou moins senti. L'autre pic en 8 par contre, et ce qu'ils ont fait avec, j'avoue que sur le coup j'étais un peu, je sais pas ce que t'en as pensé, mais
bon, on peut en parler tout de suite. Je pense qu'en fait, donc ils ont pris, enfin ils ont pas pris de joueur, ils ont échangé leur pic contre deux futurs pics, si je dis pas de bêtises,
c'est avec Minnesota. Ils ont envoyé un premier tour 2031 non protégé et un swap 2030. En 2030
qui est protégé juste top 1, le swap. Donc en fait, ils se placent sur le futur de leur. Ils se préparent pour. Les Spurs vont être compétitifs pendant combien d'années avec Wembanyama, si Wembanyama reste 12, 13, 15 ans.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
En 2030, donc dans 6 ans, Wembanyama, on sera une équipe des Spurs qui, a priori, est armée pour le titre. Ils n'auront pas d'autre choix. Il sera théoriquement, si on suit la courbe de progression, l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Tu seras en position de jouer le titre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es en position de jouer le titre? Il faut que tu aies de la flexibilité, il faut que tu aies des assets. Et là, il se retrouve avec un pic des Timberwolves en 2031. On ne sait pas exactement ce que ça va donner Minnesota en 2031. Ils auront peut-être encore Anthony Edwards, qui sont peut-être encore compétitifs. Mais tu ne peux pas trop savoir ce qu'il y aura autour de 4, ce qu'il y aura autour de Gobert. Un pic des Wolves en 2030, ou tout simplement juste des pics. Oublions, ils ont aussi celui de Dallas, d'ailleurs, en 2030. tu as des pics que tu vas pouvoir échanger contre des joueurs à ce moment-là quand tu veux remodeler ton effectif ou tout simplement faire venir des mecs en fin de premier tour. Comme je le disais, c'est des contrats pas chers. Donc moi, je trouve ça très intéressant d'avoir ces pics-là. Maintenant, ils ont tradé le choix 8. Je pense qu'en fait, ils n'avaient pas leur gars en 8, quoi. Ils voulaient qu'un seul gars. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul gars, c'était Castle. Peut-être ils voulaient Salin ou un autre des mecs qui est parti avant. Ils se sont dit, bon, bah voilà, nous, Rob Dillingham, ça ne nous emballe pas. On veut pas ce gars-là ou on veut pas les mecs qui sont disponibles, c'est-à-dire à ce moment-là il restait Cody Williams, Budelis, moi j'aime, ou Carter, tu vois, je trouve que c'était des joueurs intéressants, mais bon, ça les a priori ça les intéressait pas plus que ça, donc ils ont fait ce trade. Moi je pense que c'est un bon trade. Rob Dillingham, je suis pas grand fan moi perso, mais bon, après j'ai très peu vu et c'est un avis très limité, mais le profil, ça, tu vois, le Je suis pas sûr à quel point il peut devenir consistant. Par contre, voilà, pour les Timberwolves, c'est un mec qui va apporter un peu de scoring, de création.
Ouais, mais non, ce qui était étonnant, c'est juste que dans les scénarios qu'on avait envisagés, on se disait, s'il bouge l'un des picks, ou les deux, c'était pour faire venir un joueur un peu confirmé. Je sais que tu t'adhérais pas à cette théorie.
Ça, c'est un truc de fan, je pense.
Voilà, mais il s'est avéré que tu avais raison. Déjà parce qu'ils avaient ciblé Castle, clairement. Et c'est juste au niveau de la contrepartie, on se disait ils vont peut-être récupérer un joueur actuel ou même trade down, on sait pas, et c'est pour ça que ça a un peu surpris, mais au final le move est peut-être intéressant parce que ils récupèrent d'autres assets pour le futur. 2030, c'est en voyant 2030-2031, t'as l'impression que c'est dans 25 ans, c'est éloigné sans être éloigné, donc ça a du sens finalement. C'est des atouts qu'ils pourront réutiliser plus tard, justement au moment où ils accéléreront, où la courbe, où ils voudront atteindre plus vite le moment où ils seront très très ambitieux, je pense.
Mais en fait, c'est 2030, c'est suffisamment loin pour te dire que les Timberwolves, ils ont le temps de se casser la gueule.
Ouais.
C'est un peu le pari que tu peux faire. C'est ce que font certains quand ils demandent le pic 2029 des Suns ou d'autres équipes. Tu vois, c'est okay, ouais, c'est loin. Tu vois, et même si c'est un choix en fin de premier tour, en fait, ça sera toujours un choix que tu peux échanger. Maintenant, pour un joueur confirmé, le pick 8, quel joueur tu obtiens pour le pick 8? Parce que qui va se dire, ah là, mon joueur, il est moins fort que ce que je vais récupérer en 8 dans une promotion moins excitante. Tu vois, c'est compliqué là. Huitième choix, c'est oui, c'est cool, ça sonne bien, c'est dans le top 10, mais en vérité, oui, il y a des stars, mais il y a des superstars qui se développent. Au final, tu te rends compte, Paul George, c'est le 10e choix, Kawhi, c'était le 15e, mais tu vois, ça reste pas un 8e choix. Je peux t'en donner d'autres à l'inverse, c'est des Donovan Vonley, enfin, tu vois, c'est.
Ouais.
C'est compliqué, quoi. Ouais. Moi, je suis pas surpris qu'ils aient pas cherché un joueur confirmé. Après, voilà, ils ont encore plein de picks, donc ils peuvent toujours aller faire une star s'ils veulent ou un autre joueur confirmé. Ils peuvent balancer leur propre pick futur ou des trucs comme ça, mais bon, ça me surprend pas des masses leur stratégie. En 5, ça, par contre, ça me surprend. Ron Holland aux Pistons. J'ai pas compris.
C'est un joueur pareil, ils en sont tous des qualités, mais. Ouais, je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit pris là, je le voyais plus bas, même s'il fait partie des joueurs qui... En intro, t'as dit qu'il y avait des joueurs qui... je crois que c'était en parlant de Nolan Traoré, tu disais, il y a des mecs qui sont annoncés maintenant first pick ou dans le top 5, ça veut rien dire. Ron Holland, il a été nommé parmi les joueurs qui pouvaient être first pick à un moment, comme Isaiah Collier qui a été pris en 29, je crois, par Utah. Enfin, donc ça veut effectivement strictement rien dire. Et Holland, sa cote a dégringolé parce qu'il jouait avec la Team Ignite et que ça a pas marché, que le programme a même disparu. Mais il y a des qualités assez brutes qui sont là. Après, je pensais quand même que les Pistons tenteraient autre chose. On va voir, peut-être qu'on se trompe et que c'est le joueur qui leur manquait pour progresser. Il y a, faut pas oublier que là aussi il y a un changement de coach, que ça a bougé aussi au niveau du front office, donc c'est une autre façon de faire, on va voir, mais j'étais assez surpris aussi. Ouais.
Les Pistons ont engagé l'un des meilleurs coachs de shoot, ça a beaucoup tourné, ça, Fred Vinson. Et l'idée, c'est de faire progresser, parce que là en fait Holland, c'est un mec athlétique, un gros potentiel scoreur, mais qui a pas de shoot. Et Ozar Thompson, c'est un mec athlétique qui a pas de shoot. Donc si Vinson, il leur fait passer un cap, ben là, nickel. Les Pistons auront fait des super opérations parce qu'ils auront potentiellement 5 mecs ultra athlétiques sur le terrain, et dans le lot, s'il y a 2-3 shooters, ben, ça devient vraiment très très intéressant. Mais si la progression au shoot, elle ne se fait pas du côté d'Holland et Thompson, pour avoir du spacing avec Duren, Holland, Thompson, Ivy et Cunningham ne sont pas des super shooters non plus. C'est, je veux dire, ils sont capables de mettre des trois points, mais c'est des slashers d'abord. Ça peut être compliqué.
C'est presque dommage que Vincent ne soit pas arrivé quand il y avait encore Killian Hayes. Ce que je me dis, c'est pas du tout contre Killian Hayes, mais on sait que c'est le truc qui a fait que sa confiance a pas décollé, c'est que tout le monde arrêtait pas de lui parler de son inefficacité au shoot. Ça aurait été intéressant de le voir avec un coach vraiment spécialiste. Bah, après, ils ont des shooting coachs, hein, toutes les franchises NBA ont des shooting coachs, mais avec un mec d'élite, peut-être que ça aurait été autre chose, mais bon, on n'en est pas là. Killian Hayes, qui d'ailleurs, petite parenthèse, a quitté le groupe France, ne fera pas les Jeux Olympiques. Ousmane Dieng non plus. C'était un peu attendu pour Dieng. Hayes, on savait pas trop, et même s'il y avait du monde à l'arrière, je pensais quand même qu'on le verrait au training camp, mais bon, c'est un autre sujet. De toute façon, les JO arrivent bientôt, on aura le temps de décortiquer un peu les listes définitives, mais ouais, il est déjà plus dans le groupe.
Ouais, c'est un peu spécial. On va évidemment pas faire tous les picks, mais il y a quand même d'autres que je trouve intéressants. Le 7e choix, donc au 6e, on sait c'est Salin. 7e choix, Klingan aux Trailblazers. Je pense que Klingan, à partir du moment où il n'était pas pris en 3, ça pouvait être que en 7, parce que les équipes devant, elles ne cherchaient pas un pivot. Je trouve ça intéressant pour Portland. Je pense que ça annonce du mouvement aussi encore du côté de Portland. Du coup, Portland, qui, on le disait tout à l'heure, a récupéré Avdija, un joueur polyvalent, intéressant, de 23 ans, qui peut déjà aider une équipe à gagner. Klingan, alors ça peut paraître bizarre, ils ont drafté un pivot alors qu'il y a Ayton et Robert Williams, mais je ne serais pas surpris qu'ils transfèrent un, voire les deux.
Ah ouais, Ayton aussi ?
Après, ils ont le temps, en fait, sur ce genre de trade. Donc, peut-être que ça ne sera pas tout de suite cet été, mais à terme, je ne serais pas surpris qu'ils transfèrent les deux, Ayton et Williams. Ayton, il est décevant. Williams, il est toujours blessé. Je pense que là, ils se disent, bah, notre gars, c'est Klingan. On va pouvoir construire une défense autour de Klingan. On va pouvoir jouer des pick and roll pour Anderson et Simmons avec Klingan. Simmons.
Ouais, Simmons, ouais.
Simmons.
Deuxième, en fait, deuxième, c'est Simmons et un M, c'est Simon.
Mais tu vois, le 5, Anderson, Simmons, Sharp, Avdija, Klingan, moi, je trouve ça cool.
Bah maintenant, je me suis fait à l'idée maintenant. Mais en fait, sur le coup, on l'a appris en live avec Benjamin sur Twitch. Sur le coup, mon réflexe, c'était d'être extatique parce que Avdija quittait enfin Washington. Et après, je me suis dit, bon, il arrive à Portland. c'est pas une équipe où il va... Où il va trouver la situation que j'espérais pour lui, c'est-à-dire un contender ou au moins une équipe ambitieuse, parce que je pense qu'il se révélera vraiment dans ce genre d'équipe. Mais finalement, c'est vrai que là, sur le papier, c'est quand même assez séduisant, c'est assez jeune. Le problème, c'est que c'est toujours Chauncey Billups qui sera le coach de l'équipe.
Ouais, et puis ça va pas gagner. Enfin, ça, à l'Ouest, ça gagne pas non plus.
Bah, c'est ça. J'aurais aimé voir un autre coach arriver. J'ai pas vu grand-chose de la part de Billups en termes d'idées depuis qu'il est là. Peut-être qu'on va se tromper et que c'est la saison où ça va le faire. Et je crois qu'ils ont essayé de renforcer son coaching staff. Mais bon, je suis quand même content qu'Avdija change de crèmerie. J'avais envie de voir ça. Washington, c'était pas possible. Et s'il a un rôle important à Portland, ça me va quand même. Je suis assez content. La contrepartie, t'en as pensé quoi du trade?
Donc, la contrepartie, c'est donc le 14e choix.
Ouais.
Malcolm Brogdon. Ouais. Les Wizards vont sans doute rééchanger. Donc, peut-être récupérer un pic de plus. Et un tour de draft 2029. Mais par contre, ce qui est important sur le 2029, c'est que c'est pas celui des Blazers. Enfin, ce sera le moins bien classé. Les Blazers en ont 3 en 2029. Donc, ce sera le moins bien classé entre Portland et j'ai oublié deux autres équipes. Mais donc, ça sera un fin de premier tour. Donc, je dirais que c'est un peu beaucoup quand même, parce que potentiellement 3 picks pour Avdija, ça me semble beaucoup. Mais dans le même temps, j'imagine qu'Avdija lui-même, ils peuvent le rééchanger plus tard, notamment s'il fait des grosses perfs.
Ouais, il a un bon contrat en plus. Enfin, il avait signé un contrat assez favorable. Ouais.
S'il fait des grosses perfs, ils peuvent toujours en récupérer deux tours de draft. Leur pari, c'est de se dire, de toute façon, Avdija, il sera meilleur que le 14e choix qu'on aurait pris ou que le mec qu'on prendra en 2029 avec le 28e choix. Donc bon, ça semble un peu beaucoup sur le coup, mais quelque part, pourquoi pas. Avdija est un vrai bon joueur. Je pense qu'à Portland, il peut y avoir encore des trades, tu vois. C'est pareil, on ne sait pas trop où ça va donner. J'ai donné un 5 théorique, mais on ne sait pas dans quoi ça va. On ne sait pas où ça va aller. Portland peut toujours se dire, bah, tiens, Cooper Flagg, ça serait très intéressant pour nous. Il y a encore plein de directions que les Blazers peuvent prendre. pour la
Mais cette équipe, ouais, cette équipe, elle va être intéressante à suivre quand même, comme beaucoup, hein, avec des jeunes comme ça. C'est, je suis juste un peu, voilà, je suis un peu refroidi par le fait que Billups était confirmé. J'aurais voulu voir un coach jeune avec plein de nouvelles idées, et sans qu'il y ait forcément beaucoup d'ambition, hein. On sait que c'est un effectif jeune justement, mais bon, je suis quand même content. Avdija a changé d'équipe, c'est plus un joueur des Washington Wizards, et ça, voilà, rien que ça me satisfait.
Allez, on peut enchaîner avec le pick 9. On pourra
Ouais.
peut-être s'arrêter là sur ce pick-là. Après, on pourra parler des styles potentiels, etc. Zach Edey aux Grizzlies. Je tiens à dire, je voulais vous le dire hier quand vous en parlez avec Ben de Zach Edey. J'allais vous dire, je suis sûr qu'il sera prio. Honnêtement, je n'aurais même pas été surpris si les Blazers, ils avaient trade down pour aller chercher Edey. Et que les Grizzlies avaient, c'est un trade que j'avais mis dans un papier, et que les Grizzlies avaient cherché à aller en 7 pour prendre Klingan. Mais au final, ça veut dire que Memphis aussi. Je savais que Portland avait, enfin, je le savais, c'est pas moi qui le savais, c'est les insiders savaient que Portland s'intéressait à Zach Edey. Je sais, donc on apprend, là on peut se douter que Memphis aussi s'intéresse vraiment à Zach Edey. Et je suis pas si surpris de le retrouver haut. Par contre, j'aurais préféré Klingan pour les Grizzlies. Je trouve que
Ouais,
Klingan
bah
c'était
oui.
vraiment le mec parfait pour Memphis. Là, Edey, bon, on verra. Mais je pense que, en fait, je trouvais que pour Portland, dans une équipe qui n'a pas de pression de gagner, c'était mieux parce qu'en fait, tu t'en fiches que tu as un point faible défensif. Tu n'as pas un point faible défensif, tu en as quatre. De toute façon, tu as plein de joueurs qui ne savent pas défendre. Ils sont jeunes. Tu n'as pas encore ce truc-là. Tu vas prendre des points quoi qu'il arrive. Là, Memphis, il y aura peut-être déjà une pression de jouer enfin, tout de
C'est
suite,
sûr.
au moins peut-être retrouver les playoffs.
Ouais.
Et là, du coup, Zach Edey, c'est un peu plus délicat. Mais
Bon, ils avaient
je pense qu'il y a
besoin.
des trucs intéressants.
Ouais, ils avaient besoin d'un joueur à l'intérieur. Ils avaient besoin avec le fait qu'il n'y ait plus Steven Adams. C'est là où je suis un peu sceptique, c'est que je le voyais pris plus bas parce que, à mon avis, je pense pas qu'il puisse s'épanouir partout, parce que c'est un joueur avec un profil particulier, très 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 grand. Un très très grand, mais c'est pas Wembanyama non plus. Il a des qualités assez étonnantes pour un grand, hein, pas. Il a des mains, il est plutôt mobile pour 2-24, mais c'est pas Wembanyama, encore une fois, personne n'est vraiment Wembanyama. Et je le voyais, moi je l'avais mis à OKC un peu plus bas, parce que OKC avait aussi besoin d'un intérieur sur même un temps de jeu assez court. Donc pour les Grizzlies, pourquoi pas, hein, ça fait une bonne présence à l'intérieur. C'est un joueur, il débarque pas non plus, il a fait toutes ses saisons à Purdue, ils sont allés jusqu'en finale cette année. Enfin, c'est bien, mais ça me paraît un peu haut. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur sur une autre QV, il aurait été pris plus bas, tu vois. Mais bon, c'est un profil atypique. Peut-être que c'est parfait, que les Grizzlies ont visé juste, on verra. Et ça va aussi dépendre du développement de ce qu'il n'arrête pas d'annoncer, son tir à 3 points. En disant qu'il l'a en lui depuis la fac, mais que les consignes, c'était de pas trop l'utiliser. En NBA, si t'as un mec de 2m24 qui arrive à stretch un peu et en même temps à peser à l'intérieur, écoute, c'est pas mal.
Ouais, c'est un mec qui, je pense, du coup, va alors. Là, en fait, pourquoi je préfère Klingan, c'est que j'ai l'impression que Klingan, il pouvait le faire jouer avec Jaren Jackson Jr.
Oui.
Là, Zach Edey, je suis pas sûr. Je pense que ça sera plus, bah, voilà, du mec qui sort du banc et qui t'apporte une présence intérieure au scoring quand Ja Morant, par exemple, se repose et que tu veux tourner ton attaque un peu autrement. Voilà, ton deuxième 5, tu laisses Desmond Bane parmi les titulaires et avec ça, tu as Zach Edey qui rentre avec les Jackson et Williams, etc. Et voilà, tu as une présence à l'intérieur, tu sais que tu es contre les remplaçants adverses, donc tu es un peu moins ciblé a priori, tu as un peu moins de mecs capables de vraiment aller cibler un attaquant adverse, même si au final, il y a tellement plus de talent que même sur le banc, tu as des gars capables de faire ça. Mais bon, on verra pour les Grizzlies, dans nos prio, je pense qu'ils avaient de toute façon vraiment besoin d'un pivot. Et puis ils se sont dit, bah, le meilleur pivot à ce stade, bah, c'est Zach Edey. Bah, on prend
Probablement,
Zach
ouais.
Edey.
Ouais,
Est-ce que tu sens des styles potentiels?
bah, je t'en parlais tout à l'heure. Carlton Carrington, qui est surnommé Bob, que j'aimais beaucoup à la fac. 14e choix. Alors, je sais pas si c'est un style, mais c'est un joueur qui, à mon avis, je sens qu'il va faire parler de lui. Il a un style qui fait qu'on va parler un peu de lui. C'est marrant parce que quand je regarde l'affiche, donc il est à la base drafté par Portland, mais c'est le pick a été échangé. Et il y a marqué, le pick est passé par Golden State, Memphis, Boston et Washington. Et ça fait beaucoup, mais c'est un joueur que j'aime bien. Je sais pas si ce sera un style. Parmi les joueurs qui peuvent avoir cette étiquette-là, je rajouterais peut-être Kelel Ouer, qui est à Miami, l'intérieur, qui est pris en 15. Je trouve très intéressant. Jared McCain en 16 aussi à Philadelphie. Pour moi, c'est le meilleur shooter de cette classe de draft. Et Philadelphie étant une équipe ambitieuse, tu rajoutes un mec qui a du shoot, c'est jamais mauvais, hein, avec Embiid en point d'ancrage. Et après, si je regarde comme ça sur les joueurs pris un peu plus loin, est-ce que je vois quel, est-ce que je vois un Dalton de, alors que, faut dire
Ah ouais.
que, faut le dire Connect apparemment aux Lakers. Je pensais qu'il serait pris plus haut avec tout le buzz qu'il y avait autour, même si c'est un
Terminé sur
senior.
le top 10.
Ouais, il est annoncé top 10, donc c'est pas mal parce que c'est un assez fort joueur offensif, c'est un senior, donc il va pas logiquement, il faudra pas beaucoup de temps pour se révéler. Sinon non, je regarde encore un peu. Si, alors
Moi,
c'est pas un style, mais le meilleur défenseur de la classe de draft atterrit à Phoenix, Ryan Dunn, et c'est très bien. Phoenix justement a besoin de joueurs comme ça, de joueurs qui sont prêts. Alors il est sophomore, la deuxième année. C'est un excellent défenseur. C'est unidimensionnel, mais c'est un super défenseur. Avec Virginia, il était excellent. Donc ça peut être un style en 28. S'il trouve un mec qui devient un Herb Jones ou un genre de ce type-là, ce sera un style, je pense.
Ok, moi j'en ai deux. Déjà Dalton Connect,
Ok.
les Lakers. Franchement, le mec est annoncé top 10. Je trouve que trop souvent les franchises se concentrent sur l'âge. Oui, il a 23 ans, il a l'âge de Denis Avdia, tu vois. Mais il est prêt en fait. Et il arrive dans une équipe où on a besoin de joueurs prêts. C'est un bon shooter. Donc moi je pense que les Lakers, c'est quand même super d'avoir pu le récupérer en 17. Le mec était annoncé entre 4 et 9. Ce que je veux dire, entre 4 et 9, ils le prennent en 17. Donc voilà, je pense pas que ça sera une star, Dalton Connect, en plus, les Lakers ont quand même montré des capacités à développer quelques jeunes récemment. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Le pick 13 de Sacramento, Devin Carter,
C'est bien aussi le fils d'Anthony Carter.
le fils d'Anthony Carter, un vrai profil NBA. Voilà, en 13e choix, tu as une équipe qui est aux portes des playoffs, qui a joué les playoffs il n'y a pas longtemps, qui a joué les playoffs il y a 2 ans. Récupérer un joueur comme ça, je trouve ça très intéressant, s'ils arrivent à le développer. Et après, bah, ceux que tu as cités, alors je ne connais pas tous, mais moi j'aime beaucoup McCain. Ce n'est pas l'équipe où j'ai le plus envie de le voir, McCain. Bon. Mais bon, on verra, il y a besoin de shoot, comme tu as dit, à côté d'Embiid, il faut toujours du shoot, donc ça peut être intéressant. Et il y en a un autre que j'ai envie de citer, même si ce n'est pas forcément un profil que j'aime. Mais que le Jazz arrive à récupérer Isaac Olir
En
en
29, ouais.
29. Comme tu l'as dit, tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit c'est un mec qui a longtemps été annoncé dans le top 5, il est pris en 29. C'est une équipe qui, il n'y a pas de pression au Jazz. Ça peut donner quelque chose. Après, voilà, ce n'est pas le profil de joueur que j'aime le plus. Ça va être un scoreur, un meneur-scoreur, un peu costaud, etc. Combo guard, je ne suis pas. Qui va être. Qui a un jeu d'un deux, mais peut-être un peu trop petit pour jouer deux. Enfin bref, ça va être un peu spécial, mais ça reste quand même un mec que tu prends en 29 alors qu'il était annoncé beaucoup plus haut.
Y en a un autre quand même, parce que du coup moi je
Ouais.
l'avais mis très haut, mais avec la blessure ça a changé la donne, je pense. Mais Topic qui atterrit à OKC, donc plus pour du moyen terme, parce que je pense qu'il va pas jouer le début de saison, peut-être si ça ce en fonction de sa blessure au genou. C'est quand même, c'est enfin, vu le talent du garçon et le fait ils auront peut-être à un moment besoin d'un meneur remplaçant. Avec ce profil-là de playmaker, je trouve que Topic en 12, c'est plutôt pas mal aussi de la part de Casey.
Ouais, sachant que pour le coup, c'est une franchise dont on sait aussi qu'ils savent développer les talents. Et notamment son tir, lui, va être la grande question. Alors, avec son tir et son genou, ça faisait quand même deux red flags pour descendre. Et du coup, il sort du top 10. Mais tu as raison, c'est un mec très talentueux. Et pour le coup, il est dans une franchise qui va pouvoir le développer. Ah ouais,
Il y en
hop.
a un dernier qui est sorti du top 10,
Allez,
c'est Matas Boudzelis, du coup,
vas-y. Ouais, pris en
qui
11.
le karma s'est chargé de lui après ses déclarations sur Zachary Risacher plusieurs fois dans la saison. J'ai pas compris le bif, mais c'était. Non, c'est un très bon prospect aussi. Mais alors il atterrit quand même à Chicago, c'est un natif de Chicago, donc c'est quand même. Je pense que c'est un lot de consolation intéressant pour lui. Si toutefois il est déçu d'arriver là, je suis pas sûr, hein. Mais vu qu'il a quand même, il a l'air de tenir en assez haute estime ses capacités de joueur de basket, peut-être qu'il se voyait au-dessus du 11e pick, mais Chicago pour lui ça peut être une bonne situation aussi, hein. Il a du basket dans les pattes, le garçon, quand même, donc il est peut-être pas prêt non plus, parce que tous les gars qui arrivent de la team Ignite, et lui c'est son cas, vont mettre un petit peu de temps à se mettre en route, mais bon, pourquoi pas pour les Bulls s'ils sont dans la reconstruction, c'est un profil atypique aussi,
Moi, j'aime
donc.
bien.
Ouais,
J'aime
non, mais
bien.
c'est un beau basketteur.
Je ne suis pas un énorme fan du mec, tu vois. C'est pas un gars sur qui j'aurais un chouchou comme Stephen Castle d'autres, mais je pense qu'il a quelque chose. Et de toute façon, les Bulls vont passer, à mon avis, vont passer en mode full tanking. Ça va jouer avec Giddey, avec Kobe White, et ils seront même pas complètement ridicules par moment. Et Budzelis, il aura ses opportunités. Et effectivement, si un jour, tu as un mec qui est en 18-8 de moyenne, bah, tu l'as pris au 11e choix. Quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Un jour, on verra ce que ça donne pour Budzelis. C'est vrai qu'on a fait long, mais bon, c'est un CQFR un peu spécial, on va dire ça comme ça. Il y a eu, donc, on a parlé du move d'Avdija. L'autre gros move de la soirée, c'est quand même celui qui concerne les Knicks et OG Anunoby. On se doutait que les Knicks n'ont pas fait ce trade pour Mikal Bridges sans avoir la garantie de pouvoir garder OG Anunoby. Et effectivement, OG Anunoby prolongé 212 millions sur 5 ans.
Ouais.
Voilà, gros contrat pour OG Anunoby, mais les Knicks ont leur équipe.
Ouais, c'est énormément d'argent. 212 millions de dollars sur 5 ans, c'est énorme pour un joueur qui est plutôt un spécialiste défensif, mais c'est très bien par rapport au projet dont on a parlé déjà hier après le trade de Bridges. Ils veulent, voilà, ils savent quel joueur ils veulent, ils sont pas dans la quête de superstar, ils savent qu'Anunoby est fiable, il a été fiable en tout cas avant sa blessure, il était très fiable, ils étaient sur une super dynamique avec lui. Et ouais, ils sont en place, quoi, ça y est, ils ont ce qu'il faut. Il y aura encore des mouvements, j'imagine, parce qu'à l'intérieur, c'est un peu incertain. Alors, j'ai vu qu'Artenstein, que j'imaginais être déjà parti, serait prêt à faire des sacrifices financiers pour rester. Enfin, en tout cas, à prendre moins d'argent pour rester dans le projet Nix. Donc, s'ils arrivent à garder Artenstein, qu'ils ont fait Anunoby, qu'ils ont fait Bridges, que les autres joueurs autour restent, les Josh Hart, Jalen Brunson, quelques questions autour de Randall, Mitchell Robinson peut-être, mais l'équipe est franchement bien en place et ça a pas traîné. Donc j'aime bien, c'est vraiment dire qu'il y a une ligne directrice, c'est-à-dire qu'ils se disent pas bon comment on va faire, c'est ils font le trade Bridges le lendemain littéralement, Anunoby est prolongé et ouais, les Knicks travaillent bien.
Ouais, par contre Artenstein, ce serait plus une pay cut là qui prendrait. Hein,
mais c'était dans les rumeurs d'hier. Peut-être que ça va pas être le cas et qu'il va quand même logiquement préférer l'argent. Mais peut-être que je sais pas quelles équipes lui proposent un contrat. Donc ça va dépendre de ça aussi. Peut-être que dans un premier temps, il va se dire je prends un contrat très court pour rester au Knicks et tenter quelque chose. Et après, s'il a confiance en lui et en ce qu'il peut faire, je pense que ça peut aussi valoir le coup de tenter autre chose que le contrat en lui-même. Mais bon.
Après, si les Knicks transfèrent effectivement et Mitchell Robinson et Julius Randle, il y aura peut-être un peu plus de place pour aller signer, oui. Pour aller signer Artenstein.
Ouais.
Mais tu as raison de préciser que c'est sans doute pas fini à New York. Alors, bon, Anunoby se retrouve avec 40 millions la saison, c'est évidemment pas le montant qui colle à ses qualités, mais on l'a déjà dit, les contrats, c'est pas ça reflète pas la qualité, ça reflète un marché. Et la réalité d'un marché, et la réalité du marché, c'est qu'il fallait absolument garder Anunoby. Voilà, il a un trade kicker, il a une option joueur, il est traité comme une star sur ce contrat. Et quelque part, il a joué 33 matchs avec New York, ils en ont gagné 27.
Ah ouais, mais son arrivée, ça s'est traduit pas direct par une série de victoires, ça a changé énormément. Ouais.
Donc voilà, donc, peut-être que les Knicks transféreront Julius Randle, moi j'aimerais bien, j'avoue que je sais que c'est injuste envers Randle, mais... J'ai pas l'impression qu'il puisse vraiment faire passer un gros cap à cette équipe. En même temps, peut-être que je me trompe aussi, parce que quelque part, ça leur donne un scoreur de plus. Il faudrait voir quelles sont les offres qu'il y a pour Randle, qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer, on verra si. Par contre, si Artenstein part, est-ce qu'il faut vraiment transférer Mitchell Robinson? Je suis pas sûr, parce que là, du coup, il faudra quand même un pivot.
Il faut recruter à l'intérieur, parce que. Mitchell Robinson, malheureusement, on l'a dit hier déjà, il n'arrive pas à faire des saisons complètes, enfin très peu, depuis le début de sa carrière, il est quand même fragile malgré son talent. Ils vont devoir faire des ajustements à la marge, mais ils ont le temps pour ça. Là, l'essentiel, le plus gros du boulot est fait, à mon sens.
Yes. Allez, je te propose qu'on s'arrête là, Chay, on a fait long sur la draft. Exceptionnellement, en parlant de la draft, exceptionnellement, il n'y aura pas de CQFR du samedi. Mais il y aura autre chose à la place. Mmh. Il y aura un podcast spécial. Voilà, donc on prépare quelque chose d'assez lourd sur ce podcast. Donc voilà, soyez connectés samedi matin. Il n'y aura pas de CQFR, mais il y aura autre chose à la place. Et on fera une double dose de CQFR.
Voilà, vous pouvez nous envoyez-nous vos questions pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, on fera ça. Je vais essayer de répondre, parce que j'ai jeté un coup d'œil. Vous avez envoyé plein de messages sympas et de questions très cool. Mais je vais essayer de vous répondre par mail tout à l'heure, vu qu'on ne va pas faire de CQFR du samedi. Mais continuez à nous en envoyer à cqfr.reverse@gmail.com. Et la semaine suivante, on fera l'épisode habituel.
Yes, bah écoute. Chai, on se dit à bientôt, à demain
ouais,
pour un nouveau CQFR et bonne journée à tous.
Ciao, ciao.